enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
J'aimerais, avant de vous laisser pendant 15 jours, vous laisser un dernier message que Dieu a vraiment mis sur mon cœur. Comme je le disais dans ma prière, je voudrais que ce message soit comme une semence. Le propre de la semence, c'est qu'elle a besoin de temps pour germer, pour grandir. Et je pense que ce message aura besoin de réflexion, de temps pour que petit à petit, il puisse en vous et bien faire l'œuvre à laquelle il est appelé. Vous savez, on peut dire les choses de différentes manières. On peut les dire comme une semence que l'on sème ou bien comme une balle de revolver. Et je ne voudrais pas ce matin que ça fasse l'effet d'une balle de revolver. Je voudrais que cela vous construise, non pas que cela vous tue. Je voudrais que cela vous édifie, que cela vous encourage, que cela vous aide à grandir dans la présence de Dieu. Je vais certainement aborder des situations qui pour certains sont douloureuses. Et j'aimerais dire simplement que c'est avec un profond respect de ce que vous vivez que je le ferai. Mais c'est également avec un profond désir d'amener peut-être un regard différent sur une conception que nous avons dans ce que l'attitude chrétienne doit être dans les circonstances difficiles que je voudrais ce matin revenir. Nous avons, et vous avez, appris qu'en tant que chrétiens, disciples de Jésus, vous étiez et nous étions appelés à renoncer à nous-mêmes, à mourir à nous-mêmes et à porter notre croix, et c'est ce que nous avons accepté de faire. Nous avons accepté de suivre Christ et de souffrir avec lui. Je crois que cet aspect des choses fait partie de la vie chrétienne, dicte également une certaine conduite et une certaine attitude. Ceci dit, des années d'épreuves et de souffrances personnelles sur lesquelles je ne viendrai pas ce matin, des années de rencontres avec des hommes, des femmes qui pleuraient, qui vivaient des humiliations, qui vivaient des situations inacceptables, m'ont petit à petit amené à me poser la question et à comprendre qu'il y a des situations dans lesquelles, eh bien, la solution n'est pas toujours de se résigner, mais la solution est de résister. Et c'est dans cette pensée qu'est née cette prédication. Mon thème sera « Résister ». Je sais que je vais bousculer ce matin. Je sais peut-être que je vais déranger certains concepts bien établis peut-être depuis des années. Mais je vais le faire parce que je crois au plus profond de mon âme que ce message peut être salutaire et le moyen de changer des situations dans bien des vies. Je vais donc, eh bien, aborder ce problème-là avec un autre regard que celui que vous avez eu l'habitude d'avoir lorsqu'il s'agit de situations pénibles et difficiles dans lesquelles les chrétiens peuvent se trouver et d'une conduite souvent, eh bien, paisible que l'on leur a dictée. J'aimerais faire un constat. Mon premier constat est le suivant. Je vois des hommes, je vois des femmes, des chrétiens, des chrétiennes qui, journellement, vivent l'opposition, qui, journellement, vivent des souffrances, qui, journellement, vivent l'intolérance d'un proche. C'est un mari, c'est une femme, ce sont des enfants, c'est parfois un collègue de travail. Et face à cela, ils désirent avoir un bon témoignage. Ils désirent être disciples de Jésus. Ils désirent manifester l'amour. Ils pensent donc que la solution, c'est de se taire. C'est de ne rien dire. Plier les chines. Faire toujours profil bas. Ne jamais s'opposer. Maintenir la paix. À tous les prix. Au prix parfois de frustration et d'humiliation profonde. C'est là ce qu'ils pensent être la volonté de Dieu, c'est là ce qu'ils pensent être une direction de Dieu, c'est là ce qu'ils pensent, eh bien, ce que Dieu attend d'eux. Cependant, parallèlement à cela, je les rencontre. Je les rencontre et je les vois s'autodétruire, être rongés intérieurement, étouffés, vivre dans la crainte, dans la peur, parfois dans leur propre maison. Je les vois avoir le sentiment de ne plus exister, de ne pas avoir d'identité. Et ils sont convaincus qu'ils souffrent, et qu'ils souffrent pour une bonne cause, qu'ils souffrent pour le Seigneur, qu'ils souffrent pour la paix, qu'ils souffrent afin que le témoignage soit rendu. Certains lisent leur Bible en cachette. Je parle de la France. Je parle d'ici. Pris en cachette. Ont peur de la réaction de leur mari ou de leur femme. N'ont pas le courage de vivre leur vie chrétienne. Pardonnez-moi, ce n'est pas qu'ils n'ont pas le courage, c'est qu'ils ne savent pas toujours comment faire. Quelle est la bonne attitude? Faut-il se résigner? Faut-il plier? Faut-il taire? Faut-il s'écraser toujours parce qu'on est chrétien? Alors ils ne savent plus. Et au bout d'un moment, ils ont l'impression que c'est un rouleau compresseur qui passe sur eux. Ils prient, « Oh Dieu, change le cœur de mon conjoint, change le cœur de mon mari. Je voudrais que ma famille soit gagnée pour toi, que mon mari, ma femme, que mon collègue de travail, que mon chef, je ne sais encore qui, eh bien soit gagné pour toi. » Mais ça n'a pas de cesse, pas de fin. Contrairement à eux, et en finalité ceux qui ont finalement le rôle de, permettez-moi de le dire, mais souvent de l'oppresseur. Ceux qui oppressent ont un sentiment de toute puissance. Et intérieurement, ils se disent, de toute manière, il ne pourra jamais réagir parce qu'il est chrétien. De toute manière, il ne pourra jamais rien dire, il est chrétien. Elle ne pourra jamais faire quoi que ce soit, elle est chrétienne. Il ne pourra jamais rien dire, il est chrétien. Et ils n'ont plus de limites dans leurs exigences. Parce qu'ils sont convaincus qu'à cause de votre foi, vous ne réagirez jamais. Mais je me suis posé la question, est-ce que cette attitude est vraiment celle que Dieu nous demande? Est-ce vraiment toujours biblique? Est-ce que c'est ce que la Bible nous enseigne? Faut-il qu'il y ait parmi nous des hommes et des femmes qui en bavent toute leur vie? Parce qu'ils vivent un diktat à la maison. N'ont-ils rien le droit de faire d'autre que de se taire? N'ont-ils que le droit d'être constamment humiliés, rabaissés? Ou alors y a-t-il encore un chemin? Y a-t-il une autre possibilité? C'est ce que je voudrais voir avec vous ce matin. C'est ce que je voudrais examiner avec vous. Et je vous parle là du fond de mes entrailles, je vous parle là de mon expérience. Que dit la Bible au fait de résister? Ce sera mon deuxième point. Nous avons fait un constat, mais que dit la Bible au fait de résister? Alors la Bible nous enseigne tout d'abord les uns et les autres individuellement à résister au péché, n'est-ce pas? Nous sommes tous invités à résister au péché individuellement. Un jour, un pasteur m'a adressé un homme et en me l'adressant, il a joint un courrier. Et dans le courrier, il m'a dit, « Cher pasteur Samuel, l'homme que je vous adresse résiste à tout sauf à la tentation. » Et en effet, il a résisté à tout sauf à la tentation. L'Écriture nous enseigne donc à résister au péché dans nos propres vies, résister à la tentation dans ma propre vie. Elle nous enseigne également à résister à nos enfants. Comment? En les corrigeant, chers amis. Si ton enfant ment, vole, si ton enfant est vulgaire, alors la Bible te dicte une conduite. Résiste-lui. Résiste-lui en le corrigeant. C'est biblique. Si vous aimez votre fils, si vous aimez votre fille, alors vous n'allez pas toujours lui donner raison. Mais vous allez avoir aussi le courage de lui dire non, ça s'arrête là. Là est la frontière. Là commence le moment où tu dépasses les limites et je te résisterai. Le sacrificateur Élie a oublié de le faire. Conséquence, ses fils vont être en abomination devant tout le peuple. Ça, ce fut la conséquence. Lorsque vous lisez l'Écriture, hein, lisez l'Ancienne Alliance, lisez le Nouveau Testament, vous verrez que Dieu s'oppose lui aussi et résiste. Il résiste à son peuple, il résiste à des païens, il résiste à des croyants, il résiste. Il ne dit pas oui et amen constamment, il résiste. Il manifeste sa désapprobation. Et puis, lorsque nous lisons la vie de Jésus, lorsque nous regardons son exemple, nous découvrons que Jésus, eh bien, a été un grand résistant. Il a résisté contre le péché, non seulement dans sa propre vie. Permettez-moi de lire Hébreux 12, versets 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Jésus va résister. Il va résister contre le péché jusqu'au sang. La résistance qu'il oppose aux pharisiens, aux religieux de son temps et à tous ceux qui menaient une vie dans le désordre, eh bien, il va la mener en ayant une vie sainte. Il va payer sa résistance de la mort par la croix. C'est sur la croix qu'il va payer. Mais nous n'avons pas un Jésus qui finit sur une croix parce qu'il a toujours dit oui et amen. Nous avons un Jésus qui finit sur une croix parce qu'il s'est opposé, parce qu'il a résisté, parce qu'il a dit non. Et lorsque je lis cela, eh bien, je découvre que Jésus n'a pas seulement dit non au péché dans sa vie puisqu'il était sans péché, mais il va dire non au péché dans la vie des autres. Il va résister. Il nous est dit dans Matthieu 23, verset 27, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Dites-moi que cela n'est pas résisté. Dites-moi que cela n'est pas résisté. Jésus va résister, et ceci jusqu'au sang. Cependant, ce n'est pas eux qui l'ont vaincu par la violence, mais c'est lui qui les a vaincus par l'amour. Ils ne l'ont pas vaincu par la violence, il les a vaincus par l'amour. Lorsque vous ouvrez l'épître de Jacques, vous rencontrez ce verset qui dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». J'ai médité là-dessus ces temps derniers. Et c'est comme si une lumière s'était ouverte. Nous avons souvent spiritualisé ce verset au stade où il n'est appliqué qu'au combat spirituel. Résister au diable, c'est uniquement résister aux démons. C'est uniquement résister aux puissances des ténèbres. C'est mener un combat dans la prière. Résister au diable, c'est uniquement résister à ce monde invisible. C'est résister selon ce que Paul nous enseigne. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations, les esprits méchants, etc. Vous connaissez ce texte d'Éphésiens. Et nous avons appris cela. Et nous nous sommes dit que résister au diable, c'était seulement cela. Mais à fur et à mesure que j'ai sondé, que j'ai regardé les Écritures, je me suis rendu compte que résister au diable, c'était aussi résister à des attitudes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Écoutez, dans Matthieu 16, verset 23, Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Il voit au travers de l'attitude de Pierre, Satan qui est en train d'essayer de l'influencer pour le détourner de la croix. Et il va résister à Satan en résistant à qui ? À Pierre. résiste tout d'un coup à un humain. Nous avons toujours pensé que résister, c'était uniquement aux puissances des ténèbres. Mais voilà qu'il s'oppose à un homme, parce que cet homme avait une inspiration, et cette inspiration était contraire à la volonté de Dieu. Jésus lui résiste. Ah, vous allez me dire, oui, Samuel, ça c'est une fois, c'est Jésus. Voudriez-vous que nous fassions le tour de tous les serviteurs de Dieu qui ont résisté à d'autres? Dois-je prendre l'exemple de Samuel qui résiste à Saül? Écoutez-moi, dans le Nouveau Testament, Galates chapitre 2, il nous est dit, mais lorsque Céphas, en d'autres mots Pierre, vint à Antioche, c'est Paul qui parle, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. Paul dit qu'il résiste à son frère dans la foi, Pierre, parce que ce dernier avait un comportement répréhensible. Et Pierre, dans son comportement répréhensible, va entraîner dans son hypocrisie Barnabas. Et il nous est dit là que Paul va lui résister ouvertement. Je lui résistais en face. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Écoutez maintenant, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous. Ça, on n'est pas habitué à l'entendre. On ne le relève jamais. Mais j'aimerais vous dire que les croyants sont des hommes et des femmes qui peuvent avoir la tête haute. J'aimerais vous dire que Dieu ne vous a pas condamné à être qu'une serpillière, même si Paul dit que nous sommes les balayures du monde. Mais c'était une balayure qui réagissait. Le Saint-Esprit et Pierre vont résister à Ananias et Saphira. La fin est dramatique, mais ils vont lui résister. Jésus nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Reprends-le, agis, reprends-le, résiste. Résiste à son attitude. Si ton frère vient médire sur un autre, au lieu d'écouter sa médisance, commence à résister. Si quelqu'un vient et t'invite au péché, quel qu'il soit, résiste-lui. Résistez, et il fuira loin de vous. Écoutez bien. J'ai le sentiment qu'il y a des situations qui ne changent pas, parce qu'il n'y a pas de résistance. Résistez, et il fuira. Résistez, en d'autres mots, et il y aura un changement. Résistez, et quelque chose va se passer. Alors la question ce matin, et c'est mon troisième point, comment résister? Comment résister? Eh bien, dans ce même texte de Jacques, il est dit, soumettez-vous donc à Dieu. Et c'est là que tout commence. La manière dont vous allez résister sera dictée par votre soumission à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Jacques nous apprend à résister au diable en nous soumettant à Dieu. Nous devons donc lui résister en obéissant à la parole de Dieu, en mettant en pratique l'enseignement de Christ. Et que dit-il? Que dit-il? Mais moi, je vous dis, c'est Jésus, hein, c'est pas moi. Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Waouh! Alors, c'est déjà difficile de faire ça, mais alors comment leur résister s'il faut encore faire ça? Tout d'abord, Jésus te dit d'aimer ton ennemi. Il est évident qu'il n'est pas possible d'aimer sans pardonner. Aimer son ennemi. Permettez-moi un instant, peut-être, de me poser la question, mais où sont nos ennemis? Nos ennemis, nous les situons souvent très loin. Nos ennemis, c'est les ennemis de la foi. Nos ennemis, c'est ceux qui persécutent dans des pays où l'oppression est de règle. Cependant, ce matin, j'aimerais attirer votre attention. Contrairement à ce que nous pensons, dans certains cas, les ennemis sont beaucoup plus proches que nous l'imaginons. Et ils deviennent nos ennemis parce que nous voulons vivre notre foi. Écoutez ce que dit Jésus. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Bon, ça se fait automatiquement. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et l'homme aura comme ennemi les gens où ça? De sa maison. Hey! C'est dans ta maison que les choses vont se passer. Pas toujours, heureusement. Mais c'est dans ta maison que tout d'un coup tu vas avoir de l'opposition. Alors ça peut être un mari non-croyant, bien sûr, une femme non-croyante. Mais je vais vous dire où est le vrai drame. Le vrai drame, c'est quand un couple se dit chrétien et que l'un des deux oppresse l'autre. Et malheureusement, il y en a de trop, beaucoup trop. J'ai vu des foyers chrétiens dans lesquels on m'a dit « j'ai peur de prier parce que si mon mari me surprend, il m'humilie et se moque de moi alors qu'il est croyant. » Et je pose ce matin la question « qu'est-ce que c'est qu'être chrétien ? » Est-ce qu'être chrétien est une étiquette et venir dans ce lieu ? Si c'est ça, vous n'êtes pas chrétien. Si c'est ça, le jour où Jésus viendra, vous resterez. Si être chrétien, c'est juste dire « je crois en Jésus », mais qu'à côté de cela, la vie chrétienne, vous ne la vivez pas, et non seulement vous ne la vivez pas, mais vous la supportez pas, au point où vous oppressez celui qui veut la vivre. Alors j'aimerais vous dire, vous êtes en route vers la perdition, tout en étant assis dans une église où on loue en langue. Pardonnez-moi, mais je ne supporte plus cette hypocrisie. Je ne supporte plus les pleurs, les larmes des uns des autres, la souffrance qui est inscrite au plus profond d'eux-mêmes. Vous lisez votre Bible et vous dites, ça y est, tu fais de nouveau la super spirituelle. Ou elle vous le dit, parce qu'il n'y a pas de règle là, c'est homme et femme. Vous voyez quelqu'un dans la détresse, vous voulez lui aider? Il vous décourage, il vous en détourne. Il dit, chacun s'occupe de ses problèmes. Et pourtant, il se dit chrétien. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Vous savez, on a parlé de la résistance dans les grandes luttes sociales. Et très souvent, on parle de manière dont certains ont résisté. Je donnerai quelques exemples ce matin. Au travers de grandes luttes sociales. Mais on parle rarement de résister quand on parle du couple ou quand on parle de la famille. On parle des grands mouvements de résistance sociaux, mais on parle rarement de la réaction, de l'attitude que peut avoir une femme, un homme, dans un couple. On ne leur dit pas toujours comment faire, et ils ont parfois peur de faire, parce qu'ils culpabilisent. On leur a tellement dit que l'amour, c'est rien dire. On leur a tellement dit qu'il faut chercher la paix à tout prix. Mais j'aimerais vous dire ce matin, il y a des paix desquelles je ne voudrais jamais. Je suis rentré dans des foyers. Le mari me dit, ici, on a toujours la paix. Ben oui, elle ouvre jamais sa bouche. Elle fait partie des plantes vertes. Elle n'existe pas. C'est ça ta paix? J'en veux pas. Écoutez ce que je vais vous dire ce matin. J'ai fait un jour des obsèques. Un vieil homme, 82 ans. Quand j'allais parfois manger chez lui, il était du côté de Strasbourg. Il vaut mieux qu'on prenne un exemple du Bas-Rhin. C'est pour encourager les Barinois qui sont là. Il est venu un jour, quand j'étais chez lui un jour, j'arrive chez sa femme, elle était en haut, elle était vraiment le chef de la maison. Et lui passait sa vie, vous savez où? À la cave, à faire des petits coffres. Il aurait pu livrer l'Alsace entière tellement il a fait des petits coffres. Et quand le repas était prêt, elle lui téléphonait, tu peux monter, c'est prêt. Je parlais parfois avec lui. Il dit, Baish im Kaller Penirjavik. Tu sais, dans la cave, je suis en paix. Nous avons enterré son épouse. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était près de l'usine de bière, là. Cronenbourg. Je vous recommande de visiter Cronenbourg. Cronenbourg. Alors, on a mis le corps en terre. On a mis la terre pour dire au revoir. Je sais plus s'il y avait des fleurs. Et en sortant, il me tient à la main et au bras, là. Je marche à son rythme. Il me dit, Samuel, enfin libre! Hey, c'est quoi ça comme vie? Oh, c'est quoi ça comme vie? Ça ressemble à quoi? Passer toute ta vie pour attendre ce jour et dire enfin libre, ça n'a pas de sens. Mes amis, ça n'a pas de sens. Je sais que des croyants sont opprimés. Pas seulement en Chine, mais ici. Dans les églises en France. Je sais que des hommes acceptent d'être humiliés, alors que faut-il faire? Mais Jésus le dit, aimez ses ennemis. Écoutez ce que le philosophe Nietzsche disait. Je savais pas que ma sœur allait en parler. J'aimerais vous rappeler que le jeune homme qui se laisse inspirer par Nietzsche, c'est pas moi, hein. D'abord parce que je suis plus jeune et parce qu'il m'a jamais inspiré. Mais écoutez ce qu'il dit. Nietzsche prétend que cette exhortation de Jésus à l'amour pour les ennemis démontre que la morale chrétienne est faite pour les faibles et les poltrons, non pour les forts et les courageux. Voilà ce que dit Nietzsche. Aimez vos ennemis démontre que cette doctrine est faite pour les poltrons, les faibles, et non pas pour les courageux. Alors ce matin, ma question, est-ce que ce verset, en effet, nous dit de devenir des poltrons, de ne plus avoir d'opinion, de ne plus avoir d'identité? Est-ce que ce verset nous enseigne à faire tout ce que nos ennemis exigent de nous? Est-ce que ce verset nous dit de renoncer à ce qui est juste pour nous soumettre à ce qui est injuste? Est-ce que ce verset nous dit de refuser, eh bien de vivre notre foi pour nous soumettre au diktat d'une personne qui pense autrement que nous? Je ne le crois pas. Au contraire, je vais vous dire ce que ce verset dit. Ce verset te dit, parce que tu refuses de te soumettre à ce qui est injuste, parce que tu résistes au péché, parce que tu décris ce qui est, eh bien, le mensonge, ils te maudiront, ils te persécuteront et ils te haïront, mais en réponse, tu les aimeras. Cependant, tu existeras. Tu sauras pourquoi tu es là. C'est là toute la différence. Nous allons apprendre à résister, mais sans utiliser leurs armes. Nous allons apprendre à dire non. Non à un mari qui t'humilie, non à une femme qui t'humilie. mais sans lui faire du mal. Martin Luther King disait, dans son sermon « La force aimée », rendre haine pour haine multiplie la haine, ajoutant une obscurité plus profonde encore à une nuit privée d'étoiles. La haine ne peut chasser la haine, seul le peut l'amour. La haine multiplie la haine, la violence multiplie la violence, la brutalité multiplie la brutalité en une spirale descendante de destruction. Tu ne combats pas les ténèbres avec les ténèbres, mais tu combats les ténèbres avec la lumière. Et quand la lumière vient, les ténèbres s'enfuient. Revendiquer et défendre la vérité, non pas en faisant souffrir l'adversaire, mais en souffrant soi-même. Waouh. Réfléchissez. Revendiquer et défendre la vérité, non pas en faisant souffrir celui qui vous fait souffrir, mais en souffrant vous-même. Jésus dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Vous allez me dire, frère, t'arrêtes pas de parler de résister. Jésus dit, résiste pas aux méchants. Écoute bien ce que je te dis ce matin. Jésus est en train de te dire, n'utilise pas les mêmes armes que lui. Ne lui résiste pas par la violence. S'il te frappe, alors tends-lui l'autre joue. Montre-lui que c'est pas comme ça que toi tu règles les problèmes. Tu as un autre chemin. Tu as une autre manière de faire les choses. Montre-lui que c'est pas en étant méchant que l'on amène des solutions. La preuve de ce que je dis, c'est Pierre qui va l'apprendre dans cette leçon fameuse au jardin de Gethsémané, Matthieu 26. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Ah, Pierre. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Pierre, apprends que tu peux résister, mais il y a une autre manière de résister. Apprends que tu peux vivre ta foi, mais il y a une autre manière de la vivre, non pas en utilisant la violence. Paul dit aux Romains, ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Cela ne signifie en aucun cas, qu'il faille renoncer à ce que nous sommes en Christ. Aimer ne signifie pas tout accepter. Plier les chines, ne rien dire, se renier, ne plus exister. Et c'est ce que je rencontre. Je rencontre des hommes, des femmes dépressifs, des croyants dépressives, qui pleurent à longueur de journée, de mois et d'années, en espérant un jour un changement d'un mari, devant lequel ils disent toujours oui, 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 pour maintenir la paix, oui, parce que donner un bon témoignage, c'est dire oui. Mais j'aimerais te dire ce matin, c'est pas ce que Jésus te dicte. Il te dit de chercher la paix tant que cela dépend de toi. Il te dit de ne pas entrer en guerre, c'est sûr. Mais il te dit également de résister. Dis non à ce qui est injuste. Mon frère, ton épouse t'impose des choses injustes, commence à savoir dire non. En restant dans la paix, mais dis non. Ma sœur, apprends à dire non. Non. Si déjà tu souffres, au moins que tu saches pourquoi tu souffres. Si déjà tu souffres, que ce soit pour la cause de Christ. Si tu souffres, alors que ce soit réellement à cause du témoignage de Jésus dans ta vie. J'ai pas dit que les chrétiens sont toujours parfaits. Nos conjoints peuvent nous dire des choses tout à fait justes. Il s'agit pas de penser que nous avons toujours raison, mais quand il s'agit de notre foi, nous avons le devoir de résister. Nos frères en Algérie actuellement résistent à une loi inique. On leur interdit de se réunir, mais ils se réunissent quand même. Et ils sont prêts à aller en prison. Car voyez-vous, quand une loi inique et injuste régit un pays, la vraie question n'est pas « qu'est-ce que tu fais en prison ?» La vraie question, c'est « comment ça se fait que tu n'y es pas encore ?» S'il y a une injustice, flagrante. Alors comment ça se fait que tu n'y sois pas encore? Si tu résistes, parce que c'est injuste et inique, tu verras les choses commencer à changer. Ce matin, j'aimerais dire à ceux qui ont peur, frères, sœurs, continuez à prier. Ne vous cachez plus pour prier. Votre maison doit être un havre de paix et non pas la maison de la peur. Continuez à lire la Bible. N'allez pas vous cacher pour lire la Bible. Est-ce que vous l'empêchez de lire son journal? Est-ce que vous l'empêchez de regarder la télévision? Est-ce que vous l'empêchez d'aller au bar ou d'aller au club de foot? Est-ce que vous l'empêchez? De quel droit un homme, une femme, oppresserait-il un autre homme, une autre femme, simplement pour motif de foi? Vous n'avez pas le droit de le forcer à croire, jamais. Mais il n'a pas le droit de vous empêcher de vivre votre foi. Vous êtes appelé. Vous êtes appelé à avoir le courage de prendre position. Alors, permettez-moi de vous donner quelques exemples de résistance. J'ai encore 10 minutes, vous me les accordez? Et je suis dans les temps, hein? Daniel. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait Dieu comme il le faisait auparavant. Le décret est dehors. Qu'on ne prie plus quelqu'un d'autre que le roi Darius. Et là Daniel. Daniel ne plie pas le genou. Daniel fait de la résistance. Pierre et Jean, acte 4, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et voilà encore une fois des hommes qui résistent à un état qui leur impose le silence. Mais là, on parle d'un état. Qu'en est-il quand on parle d'un conjoint? La réaction doit-elle être différente? Et si oui, pourquoi? Parce que le conjoint ne supporte pas quand je prie, je ne dois plus prier. Certains n'ont même plus le droit de fréquenter l'église. Et ils me disent, tu sais Samuel, je m'y soumets parce que je pense qu'avec le temps, le Seigneur va le toucher. Non, 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 les apôtres auraient pu dire, ok, on se tait, on dit rien, pas de conflit, pas de tension, rien. Et avec le temps, Dieu vous touchera. C'est pas ce qu'ils ont fait, ni Daniel, ni les apôtres. Jean-Baptiste, réfléchissez avec moi sur Jean-Baptiste, il résiste à qui? Au roi Hérode, il résiste à son péché. Il dénonce son péché avec Hérodias. Il lui reproche ce qu'il fait. Il est dit, mais Hérode, le tétraque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes celles d'enfermer Jean dans la prison. Jean va lui résister. Jean va lui opposer de la résistance. Mais une résistance pour laquelle il est prêt, lui, à souffrir et non pas à faire souffrir. Permettez-moi un exemple moderne de résistance. Luther King en a fêté, il n'y a pas longtemps, l'anniversaire malheureuse de sa mort, bien sûr. Mais qu'a fait le pasteur Luther King? Face à la ségrégation raciale, face à tous ce peuple noir que l'on traitait toujours encore en esclave, en inférieur, à qui on réservait des places dans les autobus à l'arrière. Face à cette ségrégation où on les obligeait à marcher sur certains trottoirs, où ils n'avaient pas le droit de rentrer dans certains magasins. Qu'a déclenché le pasteur Luther King? Un mouvement de résistance. Un mouvement de résistance. Ils vont boycotter la compagnie d'autobus de Montgomery en Alabama. C'était leur moyen de résister, de dire c'est pas juste. On est des humains, la couleur de notre peau ne change pas ce que nous sommes. Nous sommes des êtres humains qui avons la même valeur que vous. Nous ne pouvons pas continuer à nous faire traiter en inférieur. Et tant qu'ils se sont tus, on les a oppressés. Ils vont résister. Ça va durer 11 mois. 11 mois. Aucun citoyen noir américain dans cette ville d'Alabama, Montgomery, ne va prendre un autobus. Ils vont souffrir. Ils n'avaient pas beaucoup de voitures. On va se rendre service pour s'emmener au travail. Il fallait être à l'heure au travail. C'était toute une organisation. Mais ils vont résister. Ils vont résister. Et au bout d'11 mois, ils pensent que c'est fini. On va même leur interdire, eh bien, de véhiculer les gens par voiture. Et là, finalement, King se disait, suis-je prêt? Sommes-nous prêts à continuer la résistance, même s'il faut aller à pied? Et au moment extrême, eh bien, c'est la Cour de justice qui changera les choses et qui brisera cet arrêt inique qui faisait ségrégation entre les Noirs et les Blancs. Et voilà que les Noirs, citoyens américains comme les autres, vont enfin pouvoir s'asseoir partout, rentrer dans tous les magasins. Sa lutte fut pas finie, il luttera 12 ans. Mais il résistera. Il résistera sur l'exemple de Jésus. Il résistera. Ce matin, nous pourrions dire à mes frères, les exemples que vous nous citez, eh bien, ils n'ont pas obéi au texte qui dit « soumettez-vous aux autorités ». Moi, j'aimerais te dire que quand les autorités ont des lois iniques, il faut que tu leur résistes. Mais écoute-moi bien. Quand un mari ou une femme a des exigences iniques, il faut que tu lui résistes également. Je vois des femmes venir pleurer, humiliées parce que les maris leur imposent des relations sexuelles qui n'ont plus rien à voir avec de l'amour, qui sont de la bestialité. Ils se sont nourris de pornographie et ensuite exigent de leur femme des choses rabaissantes. J'aimerais vous dire, sœur, n'acceptez jamais. Il vous menacera, mais n'acceptez jamais. Mais je suis chrétienne, je dois être soumise, rien du tout. Tu dois être soumise à ce qui est juste, pas à ce qui est injuste. Tu dois être soumise à la vérité, pas au mensonge. N'accepte pas. Arrêtez de vous faire humilier. Arrêtez de vous faire rabaisser alors que Jésus ne vous le demande pas. Bénissez, aimez. Mais soyez ferme dans vos convictions. Mon dernier point, et j'arriverai à la conclusion. Le problème est là, dans ce dernier point. Le problème n'est pas dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que finalement, tant de gens voudraient que ça change. Le problème se trouve là, dans ce que je vais dire. Êtes-vous prêt à payer le prix? Êtes-vous prêt à payer le prix? Vous savez, je vois parfois des chrétiens rencontrer d'autres chrétiens qui souffrent dans leur famille, qui sont humiliés. Et les chrétiens leur disent, oh, mais ça fait rien, je t'encourage, c'est là ta croix. Moi, je ne le crois pas. Et c'est facile de dire à l'autre, c'est là ta croix, quand chez toi, ça va bien. Je ne crois pas que c'est la croix que Dieu te demande toujours de porter. Mais si tu souffres parce que tu dis non à l'injustice, si tu souffres parce que tu dis non au mensonge, non au péché, parce que tu résistes au diable après t'être soumise à Dieu, là il est avec toi. Là il est avec toi. Joseph, pour avoir résisté à la femme de Potiphar, se retrouve en prison. Et on pourrait dire c'est injuste. Shadrach, Meshach, Abednego, pour ne pas savoir plier le genou devant une statue, se retrouve dans la fournaise. Pierre et Jean, acte 5, 40-41, ils se rangèrent à son avis, ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Mais ils se firent battre de verges. Défendre la vérité et la justice, mais non pas en employant les armes de nos oppresseurs, mais en acceptant de souffrir pour ce que nous défendons. en acceptant d'être malmené pour ce que tu confesses, en acceptant d'être malmené pour la vie chrétienne que tu veux venir mener pour honorer Dieu. Jean-Baptiste, j'en ai parlé tout à l'heure. Il résiste au roi Hérode. Ça lui a coûté la tête. La fille d'Hérodias va danser. Le roi va lui dire, que veux-tu? Je te donne la moitié du royaume. Elle va voir sa mère. Sa mère lui dit, la tête du Baptiste. Luther King. Tout au long de ces 12 années de résistance contre la ségrégation, le racisme et tout ce que vous voudriez. On lui a jeté des cailloux, il a été poignardé. Et puis, finalement, je ne vous dis rien de nouveau, malheureusement. Finalement, on l'a abattu le 4 avril 68, assassiné à Atlanta. Mais j'aimerais vous dire une chose ce matin. Ces hommes-là sont morts debout. Ces hommes-là, on ne leur a pas pris leur vie, ils l'ont donnée. On n'a pas pris la vie à Jésus, il l'a donnée. Ils sont morts, ils savent pourquoi ils sont morts. Jean-Baptiste est mort, il savait pourquoi il meurt. Jésus est mort, il savait pourquoi il est mort. Des hommes comme Luther King et d'autres sont morts, mais ils savent pourquoi ils sont morts. Ils ont souffert, c'est vrai, mais ils savent pourquoi ils ont souffert. Lorsque tu commenceras peut-être à résister, on te menacera. On te frappera même peut-être. Ah, il n'est pas rare de voir des maris frapper leurs femmes ou des femmes menacer leur mari de divorcer à ce moment-là. Je te quitte. Je divorce. Des menaces, vous y aurez droit. Vous aurez droit à toutes sortes de souffrances. Le message de ce matin, ce n'est pas une balade de santé. Vous aurez certainement droit encore plus à des humiliations à cause de votre position. Mais restez ferme. Parce que lui est avec vous. Et j'aimerais terminer en disant la chose suivante. Lorsque vous allez à la tour de Constance avec Morte, aujourd'hui encore, sur la margelle, vous lisez ce mot en occitan, résister, résister, Marie Durand. Marie Durand, cette chrétienne qui a été mise en prison après l'abolition de l'édit de Nantes en 1685. On va mettre en prison tous ceux qui continuent à exercer leur foi. On va les mettre en prison à cause de leur foi. Elle va rester, écoutez bien, elle va rester dans ce lieu sordide. Et j'étais dans la tour de Constance, je vous assure, il fait froid là-dedans. Elle va rester 28 ans là-dedans, mais jamais, jamais, elle ne va renier sa foi, jamais. Et elle va écrire « Résister ». Et mes amis, quand nous résistons, eh bien nous résistons à tous les niveaux de nos relations. Lorsque ce qu'on nous exige n'est pas juste. Nous apprenons à dire non à tous les niveaux de nos relations. C'est un voisin qui me propose quelque chose d'injuste, je dois lui résister. C'est mon fils qui me menace, qui me dit, si tu continues, je ne rentrerai plus. Alors je lui résisterai, tu ne rentreras peut-être plus. Mais moi, je ne, jamais, 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 je ne renierai ce à quoi je crois. Jamais. Lorsque le papa Jean a rencontré Jésus, il a pris une position et il a résisté pendant 6 ans. Sa famille s'est détournée de lui, toute sa famille. Et quand vous venez des milieux d'où ils venaient, eh bien vous comprendrez que la famille, c'est le lien social le plus fort. C'était leur identité, leur repère. Il va être isolé pendant 6 ans parce qu'il osait croire à la puissance du Saint-Esprit, à la guérison des malades. Mais il va résister tranquillement. Quand je dis il va résister, il ne va pas combattre son père. Il ne va pas combattre sa mère. Il ne va pas combattre ses frères et sœurs. Il va rester ferme dans sa foi sans s'en détourner. Et au bout de 6 ans, c'est mon grand-père qui dit « Ah, aux fruits, on reconnaît l'arbre. » Et c'est eux qui sont venus et qui ont rencontré ce qu'ils connaissaient. Persévérer et résister vont de pair. Vous ne pouvez pas les séparer. Alors nous avons des exemples. Luther King, Marie Durand, mais combien d'autres encore, au travers des âges, des siècles, qui ont eu le courage de résister. Cependant, On a trop souvent dit que résister, c'est juste par rapport aux conflits sociaux. Dès qu'il s'agit du couple, de la famille, c'est comme si d'autres lois régissaient. J'aimerais vous dire, il y a des moments où il faut aussi résister. Et à ce moment-là, la résistance peut, je ne dis pas qu'elle va forcément, mais peut engendrer chez vos opposants des changements d'attitude qui peuvent leur être salutaires. Le père qui résiste à son fils lui veut du bien, mais ça peut engendrer un changement dont le fils bénéficiera toute sa vie. Malheur aux fils auxquels les pères ne disent jamais rien. Malheur aux filles auxquelles les mères ne disent jamais rien. Votre résistance et vos positions peuvent les amener à un changement. Mais j'aimerais également dire à certains qui dans leur couple vivent ce que j'ai décrit, il y a des moments où il faut résister. Et en résistant, je sais que tu vas souffrir. Mais c'est peut-être et certainement le moment où le changement sera engendré. Frère, et s'il part, que dit Paul ? Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare alors. Vous savez, si vous devez terminer à 80 ans en disant enfin libre parce que vous l'avez enterré, je me dis vous avez raté votre couple, vous avez raté votre vie et vous avez raté votre vie, vous avez raté quelque chose avec Dieu. Parce que je crois que Dieu veut que cela change. Je crois que Dieu veut que cela change. La résistance permet à Dieu de te justifier et de faire des miracles. C'est à quel moment que Daniel a vécu le miracle de la fosse aux lions ? C'est quand ? Quand il a résisté. C'est à quel moment que Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis des flammes ? Quand ils ont résisté. C'est là que le miracle a eu lieu. Pas avant. C'est là. C'est quand ? Que Pierre est sorti de prison, libéré par un ange. C'est après qu'il ait résisté. C'est là que le miracle a eu lieu. Alors vous allez me dire, oui, mais Jacques, c'est pas la même chose. Lui, il est sorti avec la tête en moins. C'est que son temps était celui de rentrer. Si mon temps est arrivé, alors je rentre. Ne fait-il pas meilleur près du Seigneur ? Mais il est rentré en sachant pourquoi il rentre. Ils ne sont pas rentrés humiliés, piétinés. Ils sont rentrés forts de leur foi, en n'ayant pas eu honte du message de l'Évangile. Ils en ont payé le prix. Ils l'ont accepté. Et j'aimerais vous dire, quand vous lisez l'Apocalypse, pour ces martyrs-là, il y a une récompense particulière. Martin Luther King a mené une longue lutte. Mais aujourd'hui, c'est des millions, millions de citoyens noirs américains qui vivent librement, qui circulent librement. Et peut-être que le prochain président sera un noir américain. Est-ce bien ou pas bien ? Moi, je ne connais pas sa politique. Ce n'est pas de ça que je parle ce matin. Ce qui m'importe, c'est que des millions d'hommes et de femmes ont retrouvé une liberté. Fermons nos yeux un instant. King disait, j'ai eu un rêve. Et cela a donné un discours qui est connu aujourd'hui encore. J'ai eu un rêve. Ce matin, alors que vos yeux sont fermés, avez-vous un rêve ? Avez-vous le rêve de voir votre mari être sauvé ? Avez-vous le rêve de voir votre femme être sauvée ? Avez-vous le rêve de voir votre famille être sauvée ? Avez-vous le rêve de voir certains de vos amis être sauvés ? Il se peut. Il se peut pour certains que le chemin passera par résister. résister. Dire non. Tu n'as plus le droit de m'interdire de lire ma Bible. Non, j'irai plus me cacher pour prier. Non, tu m'interdiras plus de fréquenter mon culte le dimanche. Je t'interdis pas ton club de foot. Je t'interdis pas d'écouter ta radio, de lire tes revues, de moto, d'auto, je ne sais de quoi. Non, tu m'interdiras plus. Non, tu ne m'insulteras plus, parce que je suis aussi une créature qui a le droit au respect comme toi. Il y aura des réactions. Êtes-vous prêt à payer le prix? Je crois que Dieu vous aidera. Mais rappelez-vous, ce que le Seigneur vous dit, c'est de les aimer. Et pour les aimer, il va falloir pardonner, pardonner encore. Pardonnez toujours. J'aimerais vous laisser avec cette phrase au fond de votre cœur. Face au péché, à l'injustice, à l'oppression que vous subissez, jusqu'au sein même peut-être de votre famille, résistez en aimant ceux qui vous font du mal, sans renier celui qui vous a tant aimé. Cette phrase m'est venue alors que je terminais ce message dans ma chambre. Aimez-les sans renier celui qui vous a tant aimé. Pardonnez-leur, mais continuez à vivre votre foi. Continuez à vivre debout. N'ayez pas peur du message de l'Évangile. Jésus n'a pas eu peur pour vous et pour moi. Il n'a pas eu peur. Il a supporté cette opposition des hommes et des femmes de son époque pour que nous parvenions à la vérité et ayons la vie. Il a résisté au diable. Il a résisté aux attitudes qui n'étaient pas dignes que Dieu vous aide. Que ce matin, ce message ne soit qu'une semence. Que vous puissiez prendre du temps pour prier, réfléchir, lire à nouveau les textes, méditer, que la semence puisse semer, lever tranquillement, germer, devenir une plante, et que sur cette plante naisse un fruit d'espérance, de changement, d'équilibre également. Pourrions-nous nous lever ensemble? Pourrions-nous nous donner les mains les uns aux autres et prier ensemble? Commencez à prier là, à votre place, là où vous êtes. Certains d'entre vous ne sont peut-être absolument pas concernés par 70% de ce message. D'autres, cependant, même si vous n'êtes pas concernés directement, il y a peut-être des choses que vous devez retenir. Commence à dire, Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi que ton esprit vienne, que ton esprit m'éclaire, que ton esprit me conduise dans toute la vérité. Seigneur, aide-moi. Peut-être n'avez-vous jamais vu les choses sous cet angle-là. Peut-être n'avez-vous jamais examiné ce qui est dit sous cet angle-là. Et vous êtes bousculé au plus profond de vous-même, de vos concepts, du concept même de l'amour, de la manière de rendre témoignage. Vous avez eu le sentiment que rien dire, jamais rien dire, toujours se taire, toujours accepter, c'était la solution. Et là, tout d'un coup, vous entendez autre chose et vous êtes bouleversé. Priez et demandez au Seigneur de vous aider. Demandez au Seigneur de vous éclairer tranquillement. Que lui étende sa main sur vous. Pendant que vous avez la main de votre voisin, de votre voisine, chantons ce chant qui dit « Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. » Grâce souveraine, affermis nos pas. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas. Armée de lumière, couronnée d'éclats. Soyons sur la terre. Sur nos vies, sur nos pensées, règne sur nos actes et nos attitudes. Règne, nous te le demandons, dans le nom de Jésus. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.